Cours de philosophie critique par le père Marie-Dominique Philippe à Saint-Jeudard, le 6 février 1992.
Chaque langue a ses propres manières d'exprimer la pensée. Les traductions changent les accents dans le contenu de la pensée en les orientant aux certaines modalités de la recherche de ce qui est. Est-il nécessaire pour la philosophie de créer un métalangage qui pourrait parfaitement exprimer la pensée? Ou faut-il rester dans l'indétermination de la matière, parole humaine quotidienne? Oui, c'est un des gros problèmes d'aujourd'hui, ça. De pouvoir avoir un métalangage, qui serait le langage métaphysique. Ce métalangage serait encore inadéquat à la pensée. Langage est inadéquat à la pensée. Alors, il vaut mieux prendre le langage ordinaire et savoir que ce langage ordinaire, on le forge pour qu'il exprime le mieux possible la pensée. D'une matière plus souple, le langage ordinaire, que un langage métaphysique. Je vais expérimenter. Le gros problème d'aujourd'hui avec Heidegger, avec Hegel, c'est qu'il est beaucoup plus difficile qu'avant, étant donné qu'on est dans des idéologies, de voir l'inadéquation du langage et de la pensée pour un grec comme Aristote qui veut saisir le réel, qui sait que dès que la pensée saisit la réalité, elle la transforme. Il y a l'abstraction. Il distingue par le fait même le concept qui est un signe naturel de la réalité et la parole et qui est un symbole conventionnel de la réalité. Vous voyez, c'est tout le gros problème que nous devons chercher cette année-ci à propos de la parole divine. cela que je peux rejoindre le concept d'Aristote. Dans une langue différente, dans un contexte totalement différent. Est-ce que, depuis Aristote, la nature humaine, l'âme humaine, a changé? Est-ce que le nous d'Aristote a changé du mien? Les raisonnements ont beaucoup changé. Les paroles ont beaucoup changé. L'art a beaucoup changé. Le contexte historique a beaucoup changé. Il y a l'électricité. Ça modifie beaucoup ma pensée. Je pense électriquement. Donc ça change beaucoup ma pensée. Mais, alors, qu'est-ce qui demeure spécifiquement le même depuis Aristote? Je prends Aristote, je prends Platon si vous aimez mieux. Depuis Parménide, depuis Hésiode, peu importe, depuis Abraham. Est-ce que l'homme est resté le même? Est-ce que l'âme humaine est restée la même, spécifiquement? Et alors, est-ce que le nous est le même? Son exercice, ses images ont beaucoup changé. Surtout depuis la télévision. Surtout depuis le cinéma. Ça a beaucoup changé. Les images, le contexte. La pensée comme telle, la contemplation, le nous qui est fait pour contempler. Est-ce que les étoiles ont changé? Un petit peu. Très très peu. Je crois que quand je vais à Athènes, j'ai le même ciel à peu près que celui d'Aristote. La nature n'a pas beaucoup changé. Non. La réalité comme telle, je l'expérimente. J'ai des concepts naturels, si naturels de la réalité. Et à partir du jugement, j'exprime ce que je pense à travers un langage. Si Aristote. Donc, ce qui a le moins changé, c'est le langage de la métaphysique. Le langage poétique a beaucoup changé. Le langage rhétorique a beaucoup changé. On n'est pas rhéteur de la même façon si on est grec du siècle d'Aristote ou si on est rhéteur aujourd'hui, avocat aujourd'hui. C'est sûrement très différent. Mais la métaphysique n'a pas changé. Je crois. Lucia, ça n'a pas changé. On met très longtemps avant de découvrir ce que c'est, hein, ça aussi, c'est sûr. Mais une fois qu'on a découvert, principe propre selon la forme de ce qui est, on est très très loin de tout le contexte psychologique. On est au-dessus. De sorte que, à ce moment-là, quand ma pensée est arrivée à ce niveau-là, je crois, on peut dire qu'il y a une continuité de pensée. Point de vue concept, naturel. Le langage varie, c'est sûr, dans toutes les langues. La métaphysique ne peut pas être le langage habituel du petit déjeuner. Impossible. J'ai bien dormi. J'ai fait des rêves. J'ai fait un cauchemar. Non, ce n'est pas la métaphysique, ça. La métaphysique, c'est forger un langage. Et tout philosophe se forge un peu un langage. C'est normal. C'est pour ça que c'est si difficile à traduire. Parce que il veut être le plus proche possible de ses concepts naturels. Le plus proche possible de la réalité signifiée par ses concepts naturels. C'est ça qui l'intéresse. Donc, vous voyez, c'est ça le problème très très délicat du langage qui exprime d'une façon conventionnelle ce que je pense, qui exprime mes concepts. Et mes concepts se renvoient à la réalité. Donc il y a deux relations, l'une dépendante du contexte. Le langage est conventionnel. L'autre, au-delà du contexte, si naturel. Alors quand il s'agit de la parole de Dieu, voyez ce que ça fait. Puisque le langage conventionnel reste conventionnel. Le langage d'Amos, le langage d'Abraham, est conventionnel. C'est sûr. Il dépend de telle époque, de telle maman. Mais la pensée d'Abraham est au-delà de ce contexte. Et si la pensée d'Abraham est éclairée par une lumière divine, elle est au-dessus du temps. Et elle peut rejoindre exactement ma connaissance divine actuelle. Mais, comme c'est ça qu'il faut tout le temps se rappeler, c'est que dans tout le langage, il y a une référence au réel. Et dans tout langage divin, il y a une référence au mystère. Et c'est cette référence au mystère et cette référence à la réalité qui est intéressante, puisque c'est celle-là qui me donne la signification de ces mots. C'est pas l'aspect conventionnel. Ça change. Ça change selon le contexte. Alors, les historiens peuvent très bien s'intéresser à ça. Les psychologues et les sociologues peuvent très bien s'intéresser à ça. Mais le philosophe s'intéresse très peu à ça. Il essaie de rejoindre le plus vite possible la réalité exprimée. C'est pour ça que Saint Thomas dit, on ne discute pas des mots, mais de la réalité. La philosophie ne discute pas des mots, mais de la réalité. Discuter des mots, c'est rester dans l'intentionnel. C'est rester dans le conventionnel. Donc c'est pas philosophique. Et ça, c'est pas commode. Hein. C'est pas commode parce que la plus des hommes ont opté pour le comportement et n'iront pas plus loin. Ils ne voudront pas, parce que aller plus loin, ça exige un effort qu'ils n'acceptent pas. Ça exige un choix de découvrir une finalité qu'ils n'acceptent pas. Ils aiment mieux rester eux-mêmes, dans leur petit cocon. C'est très curieux, mais c'est comme ça, si vous regardez la réalité comme elle est. Pourquoi y a-t-il une telle opposition à la métaphysique? Pourquoi y a une telle opposition? C'est parce que justement, la métaphysique réclame ce dépassement. Et la foi réclame ce dépassement. Alors on aime mieux ramener la foi à l'exégèse. À l'exégèse des significations multiples de la parole de Dieu. Plutôt que de voir que la foi oriente vers la contemplation, vers le mystère. Donc réfléchissez beaucoup là-dessus. Il faut y revenir tout le temps là-dessus. Il ne faut pas croire qu'une fois qu'on l'a compris, c'est suffisant. Il faut y revenir tout le temps et dans sa propre vie réfléchir sur notre manière de connaître. La critique, c'est notre manière de connaître la réalité. C'est notre pain quotidien. On doit se critiquer pour voir ce qui, dans notre connaissance actuelle, touche le réel et ce qui, dans notre connaissance actuelle, demeure au niveau de notre environnement. Je continue. Fallait maintenant comprendre la diversité des jugements. C'est très très important. Et de comprendre que la vérité formelle n'existe que dans le jugement. Elle n'existe pas dans l'appréhension, mais seulement dans le jugement. Alors, premier jugement de toute notre vie intellectuelle. ce que les sensations connaissent. C'est l'intelligence qui, en se servant des sensations, atteint la réalité existante. Si je prends tout simplement l'expérience que j'ai de cette affirmation, ceci est. Parce qu'à ce moment-là, je suis obligé de reconnaître que le chemin d'existence, ceci est un X. Ceci aussi. Je connais les qualités, mais je ne sais pas ce que c'est. Alors je devrais dire uniquement vache existe. Et quand je dis vache existe, exister, je ne sais pas ce que ça veut dire. Ça veut dire quelque chose devant lequel je me trouve qui m'échappe. Oui, et ceci, ça a été jusque Heidegger. C'est la position de Heidegger, c'est pour ça que c'est très actuel. Vous voyez, c'est pas du tout quelque chose de lointain. Comme si on reprend Occam, Kant, Heidegger. Et tous les trois, à leur manière, Occam dit Datur. Datur, ceci est donné. C'est un fait, le fait d'exister, Datur. Et Heidegger dit Es gibt. C'est la même chose. Ceci est donné. Es gibt. C'est un donné que j'ignore. Mon intelligence, intelligence intellectuelle, passe pas la conscience de mes idées. Mais je ne saisis plus le monde physique dans sa réalité, si ce n'est je peux le décrire. Je décris le mur, je décris la terre sur laquelle je marche et j'emploie un certain nombre d'idées. J'ai en moi ou de formes a priori que je possède en moi qui me sont données. Donc la connaissance intellectuelle demeure au niveau de l'universel. La réalité dans son être m'échappe complètement. C'est ça qui me semble très important à souligner, c'est que il s'agit d'une interprétation du chemin d'existence. Donc, c'est tout à fait fondamental. Occam interprète le chemin d'existence à sa manière. Kant interprète le chemin d'existence à sa manière. Heidegger l'interprète à sa manière. Et nous l'interprétons à la nôtre. C'est intéressant de voir à quel moment on les quitte. Et pourquoi on les quitte. Alors, est-ce que c'est nous qui avons raison? Ou est-ce que c'est les autres qui ont raison? Vous êtes honnête. Et tout est là. C'est l'interprétation du jugement d'existence. Et c'est pour ça que c'est si important, c'est si capital. Il faudrait bien dire, je suis Aristote, parce qu'Aristote c'est quand même une autorité, je suis saint Thomas parce que c'est une autorité, et que l'Église se porte garant très très bien. Et comme Descartes dit qu'il tourne le dos à Aristote, je ne veux pas être cartésien. Et comme Kant dépend de moi, je ne veux pas être kantien. Et ainsi de suite. Vous voyez, tout ça est affectif. C'est pas la vérité. Ce sont des a priori affectifs. Je comprends très bien qu'on a été dès sa jeunesse kantien, alors on reste justement jusqu'au bout kantien. Clavel, converti, a dit je reste un kantien impénitent. Et il le dit lui-même dans ses souvenirs, n'est-ce pas ? Il dit que j'ai une peine énorme d'entrer dans Kant, mais je n'en sors pas. Je ne peux pas en sortir. Une fois que je suis entré dedans, je suis rentré dedans. Mais j'ai une peine énorme d'entrer dedans. l'existence du Christ pour vous, c'est conventionnel. J'appartiens à telle culture occidentale et européenne, je suis chrétien. Et c'était exactement la même chose, je me souviens, à Fribourg, donc pas vieux. Un Vietnamien s'était converti. Il était du Vietnam Nord et de vieille famille bouddhiste. S'était converti. Les séminaristes espagnols qui étaient là n'osaient rien dire quand le groupe d'amis était autour de lui. Mais dès qu'ils sont partis pour les vacances de Pâques, ils sont jetés sur lui en disant, mais comment se fait-il que tu t'es converti? Pourquoi tu t'es converti? Toute ta tradition est bouddhiste. Tu devrais, en contact avec les chrétiens, être plus bouddhiste que tu l'étais avant. C'est-à-dire discuter davantage de tradition et comprendre que, au fond, tu es passé d'un aspect conventionnel à un autre aspect conventionnel. Le premier était enraciné dans des traditions familiales. Maintenant, c'est enraciné dans des traditions qui ne sont plus du tout familiales. Et eux disaient ouvertement, si nous sommes catholiques, c'est parce que nous sommes espagnols. Et que l'Espagne est catholique. Tandis que toi, toute ta famille est bouddhiste, tu devrais être bouddhiste. On lui a dit ça, c'est, il me l'a dit, il me l'a répété. Alors il m'a dit à ce moment-là, j'ai supplié le Saint-Esprit de dire qu'est-ce qu'il fallait que je réponde. Il faisait de la philo, mais devant de jeunes théologiens impénitents et espagnols durs, se demandait ce qu'il devait répondre. Alors, il a répondu, je suis chrétien parce que le Christ est vivant. C'est pas à cause des traditions. Tradition familiale ou pas tradition familiale, ça m'est égal. Le Christ est vivant. Et ma foi adhère au Christ vivant. Alors j'ai dit, tu as bien répondu. C'est ça qu'il fallait dire. Vous voyez ? On revient au chemin d'existence. Pourquoi on croit? Pourquoi on est catholique? Pourquoi on est chrétien? Parce que le Christ est vivant. Le chemin d'existence, il est. Et j'adhère à lui. Si je demeure dans l'aspect conventionnel, alors, en raison de tradition, je suis chrétien. Oui, ça n'a l'air de rien, mais c'est capital, ça. Est-ce que mon intelligence est capable d'atteindre la vérité? Ou est-ce que mon intelligence demeure dans l'opinion? Si mon intelligence est capable d'atteindre la vérité, il y a un chemin d'existence par rapport à la réalité telle qu'elle existe. Si mon intelligence n'est pas capable d'atteindre la réalité telle qu'elle existe, je demeure dans l'opinion. Et donc dans le conventionnel. L'opinion, c'est du conventionnel. Et vous voyez, beaucoup de chrétiens, même de théologiens, quand ce jeune moine disait « Je suis entré dans tel endroit, c'est conventionnel pour moi. » Est-ce qu'il a encore la foi? Quand il disait « L'amour d'amitié, c'est conventionnel. » Est-ce qu'il a découvert le réalisme de l'intelligence? L'amour d'amitié est une expérience d'une réalité, d'un homme que j'aime, personne humaine que j'aime et qui m'aime. Là, je touche une réalité au-delà de tout l'aspect conventionnel. Vous voyez, on touche là quelque chose d'absolument capital et où on le découvre. Et ça, chacun d'entre vous, hein, moi je ne peux pas vous le faire découvrir. C'est votre auto-éducation intellectuelle. Il y a une émergence de l'intelligence au-delà du sensible. Ou bien, il n'y a pas d'émergence de l'intelligence au-delà du sensible. Ou je suis prisonnier du sensible. Ou je me sers du sensible. S'il n'y a pas d'émergence de l'intelligence au-delà du sensible, je suis prisonnier. Et je ne dépasse pas le sensible. Et le sensible, c'est l'imaginaire. Vous voyez, comme c'est capital. Et il faut tout le temps y revenir, ça. Parce que ce réalisme-là se perd en fonction du milieu dans lequel on est. Ça se perd. Et on comprend très bien que certains aboutissent à cette affirmation, c'est conventionnel. Alors, il faut leur faire comprendre que toute leur vie va reposer sur le conventionnel. Ou est-ce qu'un jour, ils vont se réveiller? Parce que ce conventionnel, c'est l'opinion. C'est l'opinion. Donc, on reste dans l'opinion. Ou est-ce qu'il y a un contact direct avec la réalité? Alors, au point de vue de la foi, évidemment, c'est beaucoup plus fort. C'est beaucoup plus fort parce que celui qui croit vraiment, il a la certitude qu'il atteint une personne autre que lui. Et donc, s'il reste dans le conventionnel, ce n'est plus la voie. Il reste dans les traditions religieuses. Les traditions religieuses restent dans l'opinion. J'entrais chez les dominicains pour faire plaisir à ma grand-mère. Vous savez, c'est comme... J'ai épousé telle personne pour faire plaisir à ma grand-mère. Il y a beaucoup plus de personnes qu'on pense qui font ça. Plaisir à la grand-mère. Ou l'arrière-grand-mère. Ou les traditions. Parce que les traditions, c'est toujours la grand-mère. Qui prend des... Il y a des petites traditions, il y a des grandes traditions. Parce que la grand-mère peut prendre des couleurs différentes, parce qu'elle s'est convertie à la fin de sa vie.